En amont de l'Assemblée générale de la compagnie Chabrac, qui s'est tenue le 11 avril dernier, nous avons reçu dans nos studios, ce vendredi 3 mai, Cécile Brochoir, directrice artistique de la compagnie Chabrac. Elle revient sur les origines de la compagnie, sa démarche artistique, ses projets et leur conception.
Bonjour, Cécile Brochoir, je suis directrice artistique de la compagnie Chabrac et principalement metteur en scène au sein de la compagnie, même si nous avons tous et toutes plusieurs casquettes au sein de la compagnie, mais principalement metteur en scène.
Et alors pourquoi est-elle Chabrac, cette compagnie ?
Chabrac a différentes interprétations, traductions. En l'occurrence, moi, celle qui me parle, c'est relié au patois poitevin, dont je suis originaire, le Poitou. Dans ce patois, on utilisait le mot chabrac pour dire que quelqu'un est dans tous les sens. Quand tu es chabrac, c'est que tu es complètement dans tous les sens. C'était pas forcément, gage de qualité. À ce moment-là, quand on me le disait, c'était plutôt peut-être que je partais effectivement dans tous les sens et que j'étais un peu énervée, peut-être. Ou que les personnes autour de moi, les adultes en tout cas, n'arrivaient pas à me suivre. Mais c'est quelque chose qui, du coup, est resté et qui, finalement, que j'ai transformé. J'ai eu envie de métamorphoser en me disant que finalement, aller dans tous les sens, moi, je trouve que c'est plutôt, ça peut être très positif aussi. Ça permet d'envisager plusieurs sens artistiques, plusieurs sens vitaux aussi, plusieurs directions. Et que voilà, j'avais envie de le métamorphoser en fait, par le biais de l'artistique.
Et aujourd'hui, c'est un peu la ligne de cette compagnie. Elle part un peu dans tous les sens ou...
Oui, je nourris l'amour du prototype, en fait. Alors ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre parce que c'est à rebours, en fait. C'est en jetant un œil dans le rétroviseur que j'ai constaté que j'avais besoin de projets qui soient relativement différents, avec des équipes différentes aussi, même si il y a plusieurs personnes qu'on retrouve sur les différents projets. Et de m'attaquer aux questions, au plateau, de différentes manières, quoi. Donc, il y a le texte qui est là, toujours. Moi, je viens vraiment du théâtre contemporain. Mais ce que j'aime, c'est y associer d'autres langages sensibles. Ce qui m'amène à travailler avec des musiciens, des plasticiens. Alors ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, spectacle de théâtre fait appel éventuellement à des musiciens, fait appel à des scénographes, etc. Mais c'est dans la fabrication aussi que la réflexion se pose dès le début de l'entrecroisement des différents langages.
Si on revient vraiment à la jeunesse de la compagnie, à quel moment elle a été créée ? Quelle en a été l'idée première ?
Personnellement, j'ai longtemps hésité entre anthropologie et théâtre, c'est-à-dire être dans les sciences humaines, finalement. Le théâtre me permet d'être dans les sciences humaines, mais par le biais de l'expression, en fait, et du sensible. En fait, il y a vraiment cette chose-là que le plateau nous permet de donner corps aux questions. En fait, j'ai l'impression souvent d'être une espèce d'équilibriste qui jongle entre détermination et doute. En fait, tous les projets avancent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'à la fois il faut une certaine détermination pour avancer et en même temps tout le parcours est semé de doutes et qui sont nécessaires en fait, parce que sinon sur les grandes vérités on fait du prêt-à-porter et non pas du sur-mesure, alors qu'un spectacle justement pour moi c'est uniquement du sur-mesure. Donc du coup, pour revenir à la question, en hésitant longuement entre anthropologie et théâtre, bon, ça a basculé du côté du théâtre, mais je pense que j'ai toujours une approche qui est anthropologique, philosophique, enfin qui parcourt différents autres types de sciences humaines. J'ai fait des études plutôt dans le nord de la France et entre autres à Paris. Et puis, pour des raisons personnelles, je suis arrivée dans les Hautes-Alpes complètement inconsciente de l'histoire du territoire et de la place du culturel et de l'artistique, en fait, sur ce territoire. Donc, j'ai été à la rencontre un peu des uns et des autres. Et puis, je me suis vite fait à l'idée qu'en fait, il fallait que je crée ma structure parce que je ne me retrouvais pas forcément dans celle qui existait ou que celle qui existait avait déjà des équipes constituées, pas forcément le souhait, la nécessité de s'ouvrir à d'autres personnes. Et donc, on a créé une association avec des amis et qui a démarré vraiment toute petite avec beaucoup aussi d'ateliers et de stages, en fait, de théâtre. Puisqu'il y a toujours eu ce désir, en tout cas, de travailler avec des publics amateurs. Voilà. Mais j'ai envie de dire des jeunes, mais pas que, en fait, parce que depuis que l'association a été créée, j'ai travaillé avec des publics extrêmement différents. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu tout le travail aussi avec la passerelle, le travail de création. Le plus complexe est toujours... depuis que je suis là, donc depuis 2004, c'est toujours le même problème, donc ça fait 20 ans. C'est la problématique pour les artistes sur le territoire de la visibilité, puisque nous sommes vraiment un territoire tellement reculé que personne ne vient voir vraiment ce qui s'y passe, sauf pour passer des vacances ici. Et donc c'est un territoire où on considère qu'il n'y a pas vraiment d'artistes qui vivent. Parfois, les élus ou les tutelles ont quelques difficultés à comprendre l'intérêt éventuellement d'avoir des structures professionnelles artistiques de tous bords sur leur territoire.
Et puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus une compagnie amateur, au sens premier du terme, vous êtes aujourd'hui une compagnie qui s'est professionnalisée.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours eu l'un et l'autre, à la fois le professionnel, à la fois le travail avec les publics amateurs. Mais il y avait un fort déséquilibre, c'est-à-dire que je passais énormément de temps sur les projets dits d'action culturelle. En tout cas, que j'ai un peu du mal à nommer comme ça, parce que action, c'est très ponctuel, c'est one shot. Moi, c'est vrai que j'aimais aussi vraiment impliquer les personnes avec qui je travaillais sur le sens et la fabrication des spectacles dans lesquels ils étaient impliqués. Mais en tout cas, c'est vrai que ça prenait une grosse, grosse part de mon temps. Et j'ai eu ce souhait, puisqu'elle s'est, enfin, comment dire, c'est même, ça a été même vital, en fait, d'essayer de trouver ce rééquilibrage entre vraiment la pratique liée aux amateurs et la pratique vraiment plus dédiée, en tout cas, à des plateaux professionnels. Mmh. Ceci dit, on peut créer quand même aussi avec les publics qu'on rencontre sur le territoire. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, en fait, c'est pas antinomique.
Et ça rejoint un peu une notion dont tu parlais déjà, notamment en parlant d'anthropologie, c'est la notion du lien. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment sur le site internet, quand on lit un peu sur la compagnie Chabrak. Ce fait de tisser du lien, qu'il soit entre public, œuvre, territoire, comédien, en quoi il est important ?
Ça, je pense que c'est inscrit depuis la naissance. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu où j'ai côtoyé à la fois les communautés d'Emmaüs, à la fois des lieux partagés. C'est-à-dire que l'ouverture à l'autre, en fait, ça, c'est quelque chose qui est inscrit. Et en grandissant, je n'ai cessé de buter sur, pour moi, cette incompréhension archaïque qui est l'intolérance et les discriminations diverses et variées, qu'elles soient raciales, qu'elles soient vis-à-vis des différents publics dits empêchés, la discrimination envers les femmes évidemment, etc., etc. Et en fait, en tant que gamine, j'ai aussi beaucoup côtoyé des boat people à l'époque. On parle de migrants aujourd'hui, il y avait beaucoup de boat people à l'époque. Donc moi, j'ai grandi comme ça. Et en fait, j'ai eu la chance d'entendre beaucoup de récits de personnes qui venaient d'ailleurs et de vraiment faire la rencontre de gens qui avaient d'autres façons de concevoir, qui m'ont ouvert autant de fenêtres sur le monde sans voyager. Mais vraiment, il y a eu cette ouverture-là. J'étais anthropologue quand j'étais enfant, peut-être. Et puis du coup, c'est pour ça que j'ai pu passer après au théâtre. Et c'est aussi tout ça et tous ces questionnements, c'est aussi la philo, hein, sur le qui suis-je, qui sommes-nous. En fait, on ne cesse de tourner autour du pot sur l'autoportrait, le portrait, comprendre comment l'humain fonctionne et en fait on a de cesse de tourner autour de tout ça, sauf qu'on prend par des biais différents et en tissant des liens différents. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est effectivement construire en tissant ces liens-là, en questionnant toujours, en essayant le moins possible de refermer derrière les questions, mais en essayant d'ouvrir le plus possible.
Tu en parlais tout à l'heure, c'est un peu de transdisciplinarité entre, tu vas utiliser la photographie, le langage oral, tu vas utiliser aussi le langage corporel. Et comment tu les articules un peu ces différentes formes de langage aussi pour parler de choses comme dans Inpeto qui sont de l'ordre de l'indicible ?
En fait, ça se joue beaucoup, justement, c'est vraiment toute la relation et l'équilibre entre les textes, le texte, le sous-texte, le métatexte, on pourrait décliner comme ça. Il y a effectivement des choses dans l'interprétation des textes qu'on ne va pas prononcer. Pour Inpeto, ce qui est particulier, c'est qu'en plus, j'avais écrit les textes. Donc, c'est encore une autre strate et un autre rapport à l'écriture et à l'écriture de plateau. Quand j'ai entre les mains un texte d'auteur, d'autrice. Moi, forcément, j'ai mon interprétation, en fait, derrière. J'ai aussi mon jugement. Et ce qui est intéressant, c'est justement de réussir, à partir de ce jugement, de trouver des perspectives, d'essayer de se détacher de ce jugement en disant, bah, là, je trouve que c'est un peu limite, ou que c'est moralisateur, ou que ça va trop loin, ou que ceci, ou que cela. Et après, au plateau, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Bah, ce sont ces territoires-là qui peuvent être explorés aussi, justement, par différents médias, que ce soit le corps, la musique, les arts plastiques, effectivement, le rapport à pictural, en fait, du plateau. C'est à cet endroit-là que ça se joue, en fait, justement, pour moi, avec cette question qui reste toujours entière de qu'est-ce que le public va percevoir en face. Mais ça, de toute façon, la question reste entière. Et parfois, ça prend pas. Enfin, voilà, ça, c'est le mystère de la relation après que le spectacle entretient avec le public et qui ne nous appartient pas, en l'occurrence.
Quand tu parlais d'ouverture, justement, sur d'ouverture sur le monde, dans un département comme les Hautes-Alpes, tu en parlais tout à l'heure, il a fallu un peu s'intégrer sur ce territoire. Comment est-ce que tu arrives à justement désenclaver aussi culturellement dans ton travail avec les publics de ce territoire ?
Je ne sais pas si je peux dire que j'y arrive. J'ai l'impression de tenter à chaque fois. Et ce qui se passe, ce sont à chaque fois finalement des rencontres individuelles. Il y a un temps vraiment qui souvent s'étire, c'est le temps de la rencontre. C'est-à-dire pour aller vraiment, non pas faire coucou, je vous propose un petit atelier et puis je m'en vais. Des semaines d'aller dans les EHPAD, par exemple, on a vraiment pris le temps d'aller boire des cafés, d'aller jouer au loto presque, de lire l'horoscope du Dauphiné libéré. De partager, en fait, des instants avec les différents publics qu'on veut rencontrer. On peut pas faire l'économie de l'expérience, en fait, pour la rencontre et pour le rapport de confiance. Mais on peut pas faire l'économie de l'expérience pour rien, d'ailleurs. Enfin, l'expérience, c'est pas transmissible. Du coup, il y a que en vivant les choses, je pense, qu'elles peuvent s'inscrire. Donc, pour chaque projet, on va à la rencontre de différents publics. On sait que le temps de coordination va être compliqué, puisque ces projets ne sont pas toujours bienvenus non plus. En fait, ils ne sont absolument pas considérés comme essentiels. On a beau nous parler du bien-être et du bien-vivre ensemble. En fait, souvent, pour moi, c'est de la coquille vide, c'est-à-dire que ça, c'est de la théorie. Après, concrètement, je vois bien les projets type, justement, collectif, où l'idée, c'est de se mettre en lien et de construire ensemble et d'accepter et le doute et le fait que des éléments viennent des autres, en fait. Mmh. Là, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Il n'y a pas l'habitude de ces projets-là, ici, et du réseau, et parce qu'il n'y a pas de multiplicité non plus, vraiment, des projets. Pour moi, c'est un territoire qui reste avec des années de retard sur certaines choses. C'est-à-dire qu'il s'ouvre doucement, mais il continue à avancer, mais en ayant toujours quelques années de retard. Mais ça, c'est aussi lié à la spécificité du territoire, qui est tout au bout du monde, de la France en tout cas. Et qu'effectivement, avec les plis et les replis que sont ceux du paysage, et qui forcément agissent sur la vie des gens. Et les personnes qui sont nées, entre celles qui sont nées ici ou celles qui viennent pour ça, sont pas forcément toujours friande non plus de cette ouverture au culturel et à l'artistique. Voilà. Je pense que, en tout cas, pour avoir envie de continuer dans ce domaine-là, quand on est dans les Hautes-Alpes, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement militant, en fait, d'emblée. Parce que, il y a 20 ans, moi, quand je suis arrivée, on m'a dit deux choses. On m'a dit, vous feriez mieux de repartir de là où vous venez, si vous voulez vivre dans le culturel, si vous voulez faire du culturel dans votre vie. Ou alors, vous feriez mieux de vous mettre au tourisme ou au sport. Voilà. Je suis arrivée avec ça, et c'est là probablement que peut-être d'avoir des gènes un peu du Baudet du Poitou, qui est un mulet vraiment particulièrement têtu, m'a servi à quelque chose. Après, je continue à douter. Il y a des jours où je continue à me dire mais à quoi bon et pourquoi ? Mais bon, le aquabonisme étant quand même la référence un peu aujourd'hui, j'essaye de pas trop y aller sur ce territoire.
Justement, il y a un manque de soutien de la part des pouvoirs publics sur les projets que vous proposez. Comme c'est des projets novateurs, on pourrait penser un peu le contraire, justement.
Novateur ou pas, je pense que c'est même pas la question. En fait, c'est surtout que c'est artistique et qu'on est plutôt dans une politique de la fête populaire encore. Voilà, et de l'événementiel. Pas pour tout le monde, hein. Enfin, vraiment, les élus, les agents qui regardent et qui lisent nos dossiers, c'est impossible de mettre tout le monde dans le même bain. Pas du tout. On a vraiment des personnes qui viennent voir, qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui lisent dans l'intégralité les dossiers qu'on écrit pour donner du sens, enfin, donner à voir la matière de nos projets, le corps de nos projets. Donc, je mets pas du tout tout le monde dans le même panier. Mais c'est vrai qu'on se heurte parfois avec certaines personnes à une incompréhension totale parce que pour la plupart, la culture appartient encore au bénévolat. Voilà, et c'est effectivement de l'ordre du loisir et du divertissement, et même ceux qui travaillent dans ce cadre-là peuvent bien être bénévoles pour ces projets-là. Le versant professionnel, professionnalisation, compétence professionnelle n'est pas du tout considéré. On reste sur du subjectif et du loisir, et ça, pour certains, c'est pas encore du tout acquis et réfléchi. Et c'est des gens qui ne se déplacent pas forcément, avec qui on n'a pas forcément de relations et de discussions, donc forcément, ça avance pas non plus beaucoup. Voilà.
Pas toujours. Et sur l'année 2023, donc vous avez fait tout ce travail aussi à la rencontre des publics et ce travail autour du spectacle In Petto notamment. Comment tu l'as vécu cette année ? Quel en serait un peu ton bilan, en termes artistiques, mais aussi en termes d'expérience en règle générale ?
En termes d'expérience, les deux, ça a été énorme sur toute la finalisation d'Inpeto. Ce projet-là, à l'écriture, il est né pendant le confinement. Donc là, on est en 2024. Ça fait 4 ans qu'il est né sur le papier. Et puis, confinement, post-post. De fil en aiguille, surtout, comme on était à la rencontre de publics vulnérables en EHPAD et en hôpitaux psychiatriques, on n'a pas pu mener le calendrier comme on l'a souhaité. Donc ça a mis tout ce temps-là. En fait, la rencontre, c'est ça, moi, qui me fait effectivement vibrer et qui donne corps, et puis surtout qui continue à me redonner systématiquement l'énergie pour continuer, en fait. Parce qu'il faut bien la trouver quelque part, la ressource. Elle n'est pas forcément évidente, en fait. Le minerai n'est pas à fleur, là, on ne peut pas juste le ramasser. Il faut aller vraiment en creuser parfois. Et c'est ces rencontres-là, en fait, qui donnent du sens, qui donnent du goût aux choses et qui motivent pour continuer à avancer. On a rencontré des gens fabuleux. Il y a eu des retours sur ce qu'avait provoqué ce spectacle qui suffisent à donner envie d'aller plus loin, d'approfondir, de continuer et de s'engager sur d'autres projets. Ça répond de toute façon aussi à un besoin vital de se confronter au bruit du monde. Et ça, c'est individuel, mais je pense que dans le domaine artistique, de toute façon, on en est là. C'est-à-dire, comment on gère les bruits du monde quand ils viennent nous écorcher vifs les tympans et qu'on n'a qu'une envie, c'est de mettre les mains sur les oreilles ? Quelle autre musique qu'on essaye d'inventer pour que ça soit supportable ? Qu'est-ce qu'on amène comme autre forme de douceur pour venir à un moment donné contrecarrer la violence quand même qui est celle de notre monde d'aujourd'hui et d'hier ? Parce qu'en fait, ça date, il y a déjà un bon bout de temps que les hommes se tapent sur la tête.
Et cet engagement, tu le poursuis là cette année avec un nouveau projet qui s'appelle Les Vaillantes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà ou c'est peut-être un peu prématuré ?
Non, c'est pas. Ça sera les prémices. Peut-être que si dans un an j'avais à parler des Vaillantes, ça sera complètement différent. Mais en tout cas, un projet est une micro-vie au moment de la création, en fait. Sur les 9 mois, c'est pas 9 mois, c'est souvent beaucoup plus, mais en tout cas, c'est sur le temps de gestation. Il a le temps vraiment de bouger et d'évoluer. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, ce que je peux dire des Vaillantes, c'est que c'est un projet artistique qui gravite autour de textes de Jeanne Benhamer, qui écrit surtout des romans, mais qui a aussi écrit un recueil de textes qui s'intitule « Le ramadan de la parole », dans lequel il y a 3 textes, des monologues de jeunes filles d'une 15aine d'années, qui s'intitulent « Même les Chinoises n'ont plus les pieds bandés », « Le ramadan de la parole » et « À l'affiche ». Et c'est dans ces 3 textes, pour le dire relativement vite, ces 3 jeunes filles sont dans un conflit corps et décor, c'est-à-dire qu'il est question d'affirmation de soi, détermination de voix, de sillon et de tout ce que, à côté, pour des raisons sociales ou culturelles, leur décor tente de leur imposer. Et comment elles se positionnent par rapport à ce décor, comment elles se débattent avec ce décor et ce qu'elles en font. Donc l'idée, c'est d'être sur ces monologues, une seule personne au plateau sur chaque texte, en tout cas, accompagnée d'une musicienne qui est violoncelliste. Et surtout un gros travail qui va être porté et qui va vraiment être le partenaire de jeu finalement de la comédienne autour du costume et du décor. C'est-à-dire comment faire évoluer le corps dans le décor, ça va vraiment être ce lien qui va se nouer, se jouer, se défaire entre le costume et le décor. Jeanne Benhamer a écrit ses textes en 2008, c'est déjà aussi quelque part à la fois intemporel, universel, mais aussi déjà daté par rapport à aujourd'hui, 2024, toutes les questions qu'on se pose autour du genre, etc., là, qui n'apparaissent absolument pas dans les textes. C'est vrai qu'au plateau, moi, j'aimerais que ces questions-là aussi affleurent, soient présentes. Je ne peux pas vous dire encore comment, puisque ça va être le travail du plateau, sans l'occurrence. Mais en tout cas, d'ouvrir aussi un maximum pour que ces questions que encore beaucoup de femmes se posent sur à quel endroit je dois être pour être bien vue ou pour faire ce qu'on attend de moi et pourquoi est-ce qu'en particulier on attend des choses de moi alors qu'on en attend moins éventuellement de mon frère ou de mon père ou de mon oncle ou de... Toutes ces questions sont encore quand même très très présentes aujourd'hui. C'est comment questionner et mettre à mal la question des catégories, en fait, et de comment on doit envisager sa vie en fonction d'une catégorie. Et pourquoi on a toujours besoin d'en créer des catégories, pourquoi on ne rase pas tout net les catégories, qu'elles soient du coup sociales et culturelles. Voilà, bon, la question reste entière, elle sera toujours entière, même une fois que le spectacle sera construit, puisque de toute façon, c'est une question voilà, qui traverse en l'occurrence tout mon travail.
Et là, tu en es à peu près où dans le processus de création pour l'instant ?
Le processus de création démarre à partir du mois de juin. C'est une création qui, a priori, ne verra pas le jour avant automne 25, je pense, si tout va bien. Mais là, on démarre en juin. On est accueillis sur certains lieux de résidence, dans le Vercors, dans les Hautes-Alpes et en région parisienne pour démarrer le projet. Et puis, en parallèle, on va faire tout un travail avec ce qu'on a appelé Autoportrait en chantier, qui est un projet parallèle au projet des Vaillantes et qui est un projet, là, pour le coup, dit d'action culturelle, c'est-à-dire où vraiment, on va aller se poser certaines questions avec des jeunes publics pour questionner tout ce que je viens d'évoquer là, tous ces thèmes, les traverser avec eux, voir quels sont justement aussi leurs points de vue, et pour aussi aborder donc la question du portrait et de l'autoportrait. C'est-à-dire qu'il y a aussi une mise en abîme, c'est-à-dire Jeanne Benhamer a fait des portraits de jeunes filles, elle n'a vécu aucune des trois existences, on est sur de la fiction, c'est aussi le propre d'un auteur de pouvoir faire ça, mais ces jeunes filles sont soi-disant dans l'autoportrait, et quelle est la marge de vrai et de faux et d'interprétation entre autoportrait et portrait, en sachant que parfois peut-être que le portrait que quelqu'un fait de nous, dépeint de nous, est peut-être parfois plus juste que notre autoportrait. Tout est en rapport aussi avec notre propre lucidité, peut-être, avec ce qu'on a envie de voir, de ne pas voir, avec aussi les effets de mode, à quel endroit on se glisse dans les chaussons de la mode pour disparaître, pour être un peu camouflé, ou alors on se glisse effectivement dans le sillon que la famille a envisagé pour nous parce qu'on est plus tranquille. Et puis quand on ne l'est pas, quand on est dans une forme d'intrusion, tranquillité, comment on s'en sort. Ça, c'est aussi, c'est la palette des questions derrière est très large, puisque ça dépend évidemment de notre entourage, et que c'est pas si je veux, je peux, c'est pas vrai, je n'y crois pas du tout. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et comment on arrive à mener, à passer au travers des gouttes de ces fameuses catégories ou de ces fameux rails qui ont été tracés pour nous.
Donc ces deux projets parallèles, tu aimerais les faire se croiser à un moment ?
Ces projets parallèles, il y en a un qui va démarrer aussi cet été, a priori, avec des jeunes. On va aussi côtoyer pour ça une école de musique, c'est pareil. On va essayer de reproduire en version peut-être miniature en quelque sorte, mais un peu décalé aussi, reproduire le projet de création, toute la recherche qu'on a au plateau, de la reproduire avec des publics amateurs. Donc il va y avoir tout un rapport avec une école de musique, tout un travail avec des jeunes, avec des collèges aussi, on va travailler, et avec une photographe qui mènerait là un projet d'exposition photo, a priori. Voilà. Si tout fonctionne comme on le souhaite et que la création voit le jour en automne 25, l'idéal, le rêve en tout cas, puisqu'il faut toujours partir de ça, c'est que cette fameuse exposition photo réalisée avec le jeune public puisse ensuite se promener et se balader avec la création professionnelle. C'est-à-dire ne pas être séparé sur des ateliers, des one-shots, mais comment faire en sorte que les publics qui, à un moment donné aussi, ont participé finalement à la création parce qu'ils ont bien eu envie de réfléchir avec nous, de se poser des questions, de créer, d'inventer des choses. C'est aussi leur rendre quelque part hommage, justice, que de les embarquer avec nous après aussi au moment de la diffusion du spectacle, peut-être avec donc cette exposition qui pourrait tourner. Ça, c'est l'idéal après... Je sais pas.
Un bel idéal. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Brochoir.
Merci à vous.